Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, c'est un plaisir et un honneur, un privilège bien sûr de servir le Seigneur en prêchant la parole. On continue donc notre série. Je ne sais pas si vous vous souvenez ce que je prêche, ça fait quoi? Ça fait depuis la rentrée. On a commencé une série sur les habitudes spirituelles. Sur les habitudes spirituelles, les habitudes de la grâce. Et donc, en guise d'introduction, j'avais commencé deux sermons. Le premier, c'était sur le fait, je vous avais expliqué sur le fait que chaque être humain, chaque personne, on a tous des habitudes. On est des êtres habitudes. On a des choses dans notre vie qui rythment notre vie quotidienne. Et donc, ensuite, on a vu le mois dernier que les habitudes que l'on a, qu'elles soient bonnes, quand elles sont bonnes, elles peuvent être mortelles. Et surtout, les habitudes spirituelles. Si ces habitudes spirituelles sont légalistes, si elles ne sont pas bénies dans la grâce, elles sont mortelles. Et donc, j'aimerais vous rappeler que une habitude spirituelle, c'est fait pour que l'on soit constamment renouvelé, encouragé, transformé par l'Esprit. Pourquoi? C'est tout simple, pour être en bonne santé spirituelle, tout simplement. Et donc, aujourd'hui, on va s'attaquer à la première habitude spirituelle pour les chrétiens, ce que moi j'appelle l'adoration collective, ou ce que les gens appellent plus communément le culte du dimanche, ou d'autres églises appellent ça la célébration. C'est-à-dire, c'est quoi l'adoration collective? C'est tout simple. C'est le rassemblement de disciples de Christ qui se mettent ensemble, qui vivent la communion ensemble. Pour quoi faire? Pour adorer et pour louer le Seigneur. C'est ça, l'adoration collective. Et en fait, j'aimerais juste aussi vous rappeler que les habitudes, c'est pas juste comportemental. C'est-à-dire qu'on n'a pas des habitudes juste parce que on est comme ça. On a des habitudes parce que les habitudes révèlent qui nous sommes en réalité, quelles sont nos aspirations, quels sont nos désirs les plus profonds. Et c'est pour ça que l'on fait ce que l'on fait au quotidien, dans notre liturgie quotidienne. Et donc, on peut avoir de bonnes ou de mauvaises habitudes. Par exemple, si vous allez à la salle de sport, pourquoi est-ce que vous allez à la salle de sport? Si vous allez à la salle de sport quotidiennement ou toutes les semaines, c'est que c'est une habitude. C'est quelque chose qui rythme votre vie au quotidien ou mensuellement. Et donc, ce style de vie démontre une chose. Ça démontre quoi? Ça démontre que vous pensez qu'une bonne vie, une bonne hygiène de vie inclut le fait de faire du sport. On est d'accord? Et donc, ça veut dire que l'exercice physique, c'est important pour vous. C'est important d'être en bonne santé. Parce que lorsque l'on fait du sport, ça impacte notre corps, notre physique. Et donc, on est bien physiquement. C'est simple. Mais c'est ça une habitude. Lorsque l'on fait des choses régulièrement, ça impacte notre personne, et notre caractère, et notre personnalité. Les habitudes, ça révèle ce que l'on aime, ça révèle ce que l'on désire, ça révèle vraiment notre être. Et surtout, ça façonne notre vie également. Ça façonne notre quotidien, ça fait qui on est. C'est pour ça que c'est important de porter notre attention aux habitudes spirituelles. Parce qu'elles agissent sur nous et en nous. Une habitude, ça forme une personne et ça aussi, ça la déforme. Ça déforme qui on est, si c'est une mauvaise habitude. Alors, qu'en est-il de l'adoration collective? Est-ce que vous êtes conscient de ce qui se passe quand vous venez ici le dimanche à l'église? Est-ce que vous savez pourquoi vous venez à l'église le dimanche. Est-ce que vous vous êtes conscient de la portée et de l'impact de votre présence à l'église? Est-ce que c'est une bonne habitude que vous avez, que vous aimez avoir? Ou est-ce que c'est juste une chose en plus à faire pendant la semaine? Seul vous avez la réponse. Et donc aujourd'hui, je vais partager mon message en trois parties. Premièrement, sur le fait que l'adoration collective, c'est une nécessité, tout simplement. C'est une nécessité, ensuite on va voir la puissance de l'adoration collective, et enfin la source de l'adoration collective. Je vais donc commencer par la nécessité de l'adoration collective. Le culte du dimanche, c'est pas juste une bonne idée. C'est pas juste quelque chose d'important qu'il faut faire en tant que disciple de Christ. Le dimanche, le culte du dimanche, l'adoration collective, c'est une question de vie ou de mort. C'est quelque chose de vital, c'est une nécessité. Et dans le livre des apôtres, dans le livre des actes des apôtres, pardon, qui a été écrit, rédigé par l'historien Luc, on est donc dans Luc, dans acte 2. On est post-résurrection de Jésus. Que se passe-t-il pour les premiers chrétiens de l'histoire de l'Église? Jésus, il est mort à la croix. Ensuite, il est ressuscité. Qu'est-ce qu'il fait après? Il se révèle à tous ses disciples. Ensuite, il passe 40 jours avec eux. 40 jours, et ensuite, il s'apprête à les quitter, à remonter au ciel, à l'ascension. Et avant qu'il remonte au ciel, il leur fait une promesse. Cette promesse, c'est la venue du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit soit avec les disciples lorsque Jésus les quitte. Et il fait la promesse que lorsque les disciples reçoivent le Saint-Esprit, ils expérimenteront quelque chose de beaucoup plus grand de ce qu'ils ont vu pendant la présence de Jésus. Et donc, dans Acte 1, le chapitre 1 dépeint justement l'ascension de Christ dans le ciel. Et en le voyant partir, les disciples de Christ devaient se demander, mais qu'est-ce qu'ils allaient faire? Qu'est-ce qu'ils allaient faire maintenant que Jésus monte au ciel sans lui, leur Messie, leur Maître, leur Sauveur, leur enseignant, leur guide? Jésus leur promet donc le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'ils sont censés faire, les disciples? Qu'est-ce que vous feriez à leur place? On peut lire dans Acte 1, je vais vous lire ce passage, de Acte 1, 12, 14. Alors, après l'ascension de Jésus, alors ils retournèrent à Jérusalem, de la colline appelée Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Ils avaient là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils se sont tous réunis et ils ont prié. C'est la toute première chose que les disciples de Christ ont fait lorsque Jésus est remonté au ciel. Jour 1 de l'Église, rassemblement, communauté, prière. Acte 1, versets 12 à 14. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, après cette réunion de prière, ils choisissent un deuxième apôtre, Matthias, qui remplace Judas, ils se réunissent, ils s'assemblent, ils prient, et il y a le sort qui désigne Matthias. Rassemblement, communauté, prière. Vous voyez là où je veux en venir. Il semble que les disciples de Christ ont pris la bonne habitude de se rassembler dès le début du mouvement chrétien. Et donc, on y lit que les disciples persévéraient en se réunissant. Ils persévéraient en se réunissant. Ça veut dire qu'ils s'étaient engagés à se rassembler, à se mettre tous ensemble. Pourquoi ? Ben parce qu'ils étaient dévoués à la cause de Jésus et que leur foi faisait en sorte qu'ils voulaient rester ensemble. Et donc, ces rassemblements, ces rencontres, c'était absolument crucial et essentiel dans le mouvement de l'Église primitive, dans le début du lancement de l'Église. Et c'était le seul moyen pour eux d'être ensemble que de survivre face à la persécution qu'ils allaient subir. Et donc, les disciples, ils ont compris dès le départ que la communion fraternelle, c'était quelque chose d'absolument vital et crucial entre frères et sœurs. Ce fut le cas pour les disciples du 1er siècle. Qu'en est-il pour nous, chrétiens du 21e siècle? Dans l'histoire de l'humanité, je pense qu'on n'a jamais été autant connectés entre nous par la technologie, par les réseaux sociaux. Et pourtant, je pense que jamais dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais autant été déconnectés socialement les uns et des autres. Parce qu'on pense que c'est la technologie qui nous connecte. Et j'ai lu une étude, par exemple, qui disait que, ça c'est une simple étude, hein, qui disait que lors d'une rencontre de deux personnes, ne serait-ce que la présence d'un smartphone détériorait la qualité de cette rencontre entre ces deux personnes. Pourquoi ? Parce que l'une des deux personnes a cette tendance à penser ou à vouloir penser combien de notifications il a dans son smartphone. Et ça, c'est juste un exemple parmi toutes les conséquences qu'ont la présence des smartphones, de la technologie dans nos vies. Ça, c'est un simple exemple. On pourrait se dire qu'on peut substituer la communauté virtuelle réelle par une communauté virtuelle. On peut substituer les interactions humaines par des échanges tactiles. Et en fait, ça, c'est le but de tous les grands groupes du GAFA ou de tous les grands groupes technologiques. Et en plus, c'est que ça marche. On est consommateur de leurs produits. Et donc, cette mentalité s'est même répandue dans l'Église, chez les chrétiens, parce qu'on fait partie aussi de la société. Mais le truc, c'est que ça m'est arrivé tellement de fois d'entendre des gens dire que c'est pas obligatoire d'aller à l'Église le dimanche. C'est vrai, c'est pas écrit dans les commandements qu'il faut aller à l'Église tous les dimanches. Bien sûr que c'est pas un commandement. C'est beaucoup plus facile d'éviter les autres et faire son truc par soi-même, pour soi-même. C'est plus facile d'écouter un sermon en ligne que de venir tous les dimanches ici à l'Église. C'est plus facile d'écouter Maître du Bethel ou du Hillsong que de venir écouter David ou Michael, même s'ils chantent très bien. C'est plus arrangeant de débattre théologie sur Internet derrière son écran que d'échanger avec ses frères et sœurs, de discuter de ses points de vue. Et je dis pas que ces choses sont malsaines, que c'est pas bien, mais ce serait dangereux si on faisait ces choses-là par substitut au dimanche. Genèse 1, ça décrit quoi, Genèse 1 ? Ça décrit l'origine de l'humanité. Genèse 1 nous raconte que l'homme et la femme ont été créés, pour des relations. Des relations avec Dieu, entre nous. Dieu nous a créés en tant qu'êtres sociaux et relationnels. Pourquoi ? Pourquoi il nous a créés ainsi ? Parce que Dieu nous a créés et façonnés à son image, tout simplement. On est des porteurs de l'image divine. Et Dieu, c'est la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont relationnels, qui vivent une communion qui est parfaite et totale. Et l'autre question, c'est de savoir, à part de savoir d'où l'on vient, c'est de savoir où est-ce que l'on va. Quelle est notre destination? Quelle direction est-ce que l'on prend? Laissez-moi vous lire Apocalypse, chapitre 7, verset 9. « Je regardais et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau. » C'est ça notre destination. C'est ce qui va se produire dans le ciel lorsque l'on quittera cette terre. On a été créé pour des relations. On est là, sur terre, aujourd'hui, sur le chemin pour expérimenter ce que je viens de vous lire dans Apocalypse, cette communion qui est parfaite, qui est harmonieuse devant le trône de l'agneau. Ça sera un rassemblement qui sera parfait et glorieux. Ça, c'est Apocalypse qui nous le décrit. Et c'est ce que l'Église primitive a saisi dès le début de sa naissance. Ils avaient compris ça, les disciples. Lorsque Jésus est parti, ils se sont rassemblés, ils se sont réunis. Ils se sont pas réunis parce qu'ils avaient rien à faire, ils savaient pas quoi faire. Mais ils savaient que c'était crucial et vital pour la survie de leur communauté. Ils en avaient absolument besoin. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire, là, le dimanche. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est un simple avant-goût du ciel. Même si on s'en rend pas parfois compte, on se réunit avec différents arrière-plans, différents horizons, différentes personnalités, différents caractères, différents préférences, différents... On est tous des personnes différentes. Pourquoi faire? Pour adorer l'agneau. Pour venir devant le trône et adorer l'agneau. Et c'est ce qu'on fait chaque dimanche, c'est ce que vous faites chaque dimanche lorsque vous réunissez à l'église. Et les habitudes ont cette incroyable faculté et cette puissance de façonner notre vie. Et c'est ce qui m'amène à mon deuxième point. Est-ce que vous savez pourquoi vous venez chaque dimanche à l'église, semaine après semaine, année après année? Lisez avec moi le verset 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Une fois de plus, ils persévéraient ensemble à faire ça. C'est-à-dire qu'ils s'étaient engagés à faire toutes ces choses. Et c'était quoi la conséquence de ces habitudes qui ont été prises? C'est quoi l'évidence? Pourquoi ils font tout ce qu'ils font? Lisez avec moi, verset 43. La crainte s'emparait de chacun et il faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Lorsqu'ils se réunissaient ensemble, qu'est-ce qu'il y avait? Crainte et miracle. Verset 43. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens, leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous en fonction des besoins. Qu'est-ce qui se passe ici? Unité radicale et générosité incroyable. Verset 46. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Qu'est-ce qui se passe ici? Hospitalité et joie. Verset 47. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Adoration et faveur extérieure. Avec les habitudes, les choses ont commencé à changer pour les disciples. Non seulement leur vie était changée, mais on peut aussi lire des vies qui sont transformées. Verset 47. Le Seigneur a ajouté chaque jour à l'Église celles et ceux qui étaient sauvés. Bien sûr qu'ici, c'est Dieu qui agit parmi eux. Mais une fois de plus, dès le début de l'Église, les disciples ont compris que c'était vital et crucial de se réunir. Ils ont pris cette bonne habitude de la grâce qui est la communion fraternelle, qui a donné une direction formatrice à l'Église primitive. Et cette base, qu'est-ce que ça a fait? Ça a changé le cours de l'humanité. La construction de l'Église a changé l'histoire de toute l'humanité. Et tout ce que vous faites ici, lorsque vous venez à l'Église, c'est une réponse à Dieu. C'est une réponse à la grâce de Dieu. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais votre culte ici à Saint-Maur, il est liturgique. Pour nous, évangéliques, pour nous, en tant que protestants, le mot liturgie, ça peut parfois être un gros mot ou associé aux catholiques. Mais on a tous une liturgie qui nous est propre à chacun, à chaque église où vous allez. La liturgie, c'est quoi? C'est un ensemble de rituels et de rites que l'on pratique, tout simplement. C'est ça, une liturgie. Et donc, chaque église évangélique, chaque église a sa propre liturgie. Et moi, quand je vivais aux États-Unis, lorsque je faisais mes études, j'allais dans une église qui était presbytérienne. Et les églises presbytériennes sont, entre guillemets, hautement liturgiques. Et en fait, c'est-à-dire que tout avait un ordre, tout était vraiment carré. Et en fait, tous ces rituels, ça a changé ma vie. Enfin, ma vision d'un culte du dimanche. Je comprenais pas forcément, lorsque j'ai grandi à l'église, dans mon église baptiste de Champs-sur-Mer, je comprenais pas beaucoup de choses, pourquoi on faisait ce que l'on faisait, etc., etc. Et en fait, lorsque j'allais dans mon église de Stasi, chaque chose était imprégnée de l'évangile. C'était pas juste par tradition, c'était pas juste par habitude, mais c'était parce qu'il y avait une puissance derrière chaque élément du culte. Pour vous aider à comprendre, je vais aller étape par étape ce qui se passe chez vous. Si je me trompe pas, qu'est-ce qui se passe chez vous en général? Dès le début, il y a le leader de la louange qui a des mots. On est d'accord? Il a des mots pour d'encouragement, des mots d'appel à la louange. On est d'accord? Je me trompe pas? Voilà. Et donc, l'appel à la louange, c'est quelque chose, ça prend quoi? Une ou deux minutes, ça a l'air banal, mais c'est absolument crucial. Pourquoi c'est important? L'appel à la louange, c'est un élément du culte qui démontre une partie de l'évangile. Laquelle? C'est où Dieu nous a appelés à venir en relation avec lui. C'est-à-dire que lorsque l'on vient le dimanche au culte, c'est une simple réponse à sa grâce, à son salut. Parce que c'est Dieu qui a initié tout changement dans notre vie. C'est lui qui a mis la foi en nous. Et on n'est absolument pas digne d'être dans sa présence. On n'est absolument pas digne d'être dans sa présence. À moins qu'il nous y invite. Et c'est ça l'appel à la louange. C'est un rappel qu'on est indigne d'être dans sa présence, mais qu'il nous a invités par grâce et par le sacrifice de son Fils. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il y a les chants. Et d'accord, il y a la musique, il y a les chants. Pourquoi on chante à l'église? Pourquoi pendant un culte dans une église évangélique, on chante? Laissez-moi vous lire le psaume le plus court, psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté est grande envers nous, et sa vérité dure éternellement. Louez l'Éternel. On chante Dieu pour qui il est. On chante Dieu pour sa grâce. On chante Dieu pour sa bonté envers nous. On chante Dieu parce qu'on est reconnaissant et que l'on reconnaît qui est l'Éternel. Après, chez vous, qu'est-ce qui se passe? Il y a l'open mic. C'est ça, il y a l'open mic. L'open mic, c'est la première fois que je vois ça dans une église. Et franchement, j'avoue que j'adore. J'adore, pourquoi? Parce que, pourquoi vous avez instauré ça? Je sais pas, mais j'imagine que vous avez instauré ça pour tout simplement témoigner de la bonté du Seigneur. Témoigner de ce que de ce que Dieu fait dans votre vie et de ainsi louer le Seigneur par ce biais. Et moi ça m'encourage personnellement de toujours entendre des témoignages, d'entendre de ce que Dieu fait dans la vie de chacun et de chacune. Ensuite, il y a la prédication. Lors de la prédication, là, il y a la parole qui est lue, il y a l'évangile qui est partagé et il y a Christ qui est annoncé. Et une fois de plus, on reçoit cette grâce de Dieu qui vient nous faire du bien, qui vient nous encourager et parfois qui vient nous reprendre lorsqu'il faut. Pourquoi ? Ben pour nous édifier, pour nous encourager, pour que l'on puisse grandir et croître en lui. Ensuite, après, il y aura l'offrande. Pourquoi est-ce qu'il y a l'offrande? C'est pour dire que on donne parce que, pour dire que, ben, tout ce que l'on a, ça nous appartient pas. Tout ce que l'on a, ça vient de la providence de Dieu. Une fois de plus, c'est une réponse, lorsque l'on donne, c'est une réponse à la grâce de Dieu. C'est par Dieu que l'on a un travail, que l'on a un salaire. C'est par Dieu que l'on a un intellect pour faire des études. C'est par la grâce de Dieu qu'on a tout ça. Et donc l'offrande, c'est une simple réponse à sa grâce. Et pour dire qu'on est des simples intendants matériels de ce que Dieu nous a confié. Et enfin, la bénédiction. La bénédiction, une fois de plus, c'est quelques mots, c'est une petite prière. Mais c'est un rappel qu'avant même que l'on soit envoyé en mission ou dehors dans la société, avant même que l'on soit envoyé, c'est pour nous conforter sur notre statut, pour nous dire qui l'on est, pour dire que l'on est béni pour être une bénédiction au monde. Et donc, chaque dimanche, chaque élément du culte, chaque chose que l'on fait, c'est une réponse à la grâce de Dieu. On vient ici pour expérimenter la grâce de Dieu, pour être constamment renouvelé, transformé, encouragé en tant que corps de Christ. Et je conçois que chaque personne à ses impératifs toutes les semaines et que parfois moi ça fait plus de 20 ans je vais à l'église et je sais pas comment dire ça mais c'est j'aimerais justement vous faire comprendre que l'église c'est la chose matérielle entre guillemets à part la Bible, c'est la chose concrète, matérielle, la plus importante qu'il y ait sur Terre. Pourquoi ? Venir à l'Église, c'est vraiment là que, où on peut expérimenter Dieu, on peut expérimenter sa grâce, on peut vivre la communion fraternelle. Et donc, c'est à votre détriment si vous ratez un dimanche. C'est à votre détriment si vous préférez partir en week-end ou si vous préférez faire autre chose. C'est votre choix si vous voulez être un simple chrétien de consommation. Et vous pouvez le rester. Vous pouvez être un simple chrétien de consommation. Mais ce serait dommage de rater de l'expérience, d'expérimenter la grâce de Dieu. Chaque semaine. Chaque dimanche, c'est pas juste chanter, c'est pas juste lire, c'est pas juste prier. Tous les dimanches, c'est le début de la fin. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans Hébreux 10, je vais vous lire Hébreux 10, versets 24 à 25. Veillons les uns sur les autres pour nous insister à l'amour et à de belles œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour, c'est-à-dire le jour où Christ reviendra. On vient chaque dimanche pour nous inciter mutuellement à l'amour. On vient chaque dimanche pour nous inciter mutuellement à faire de belles œuvres, à faire de belles choses. Alors faisons-le ensemble jusqu'à ce que Christ revienne. Et une fois de plus, ça fait plus de 20 ans que j'ai à l'église et que j'entends ce discours-là. Sur le papier, ça semble beau, n'est-ce pas ? Mais la réalité est parfois autre. Peut-être que pour vous, vous réunir le dimanche, c'est la dernière chose que vous avez envie de faire. Pour diverses raisons, parce que vous aimez pas être en cercles sociaux, ou peut-être parce que l'église c'est pas une bonne expérience pour vous. Ou peut-être que lorsque vous venez le dimanche, vous avez simplement l'impression de jouer un rôle, de porter un masque. Bref, vous avez vos raisons de pas vouloir venir à l'église le dimanche. La réalité, c'est que, une fois de plus, à cause de notre condition humaine, à cause du péché, on expérimente la douleur. Alors qu'on est censé faire du bien, recevoir du bien. Où est notre espérance dans tout ce que je dis? Comment savoir que ça vaut le coup de faire les efforts, de venir tous les dimanches, de vivre la communion fraternelle? Comment être sûr que l'on peut vivre des moments de bonheur lorsque l'on a expérimenté des moments de douleur dans l'Église? Et c'est ce qui nous mène à notre troisième partie, la source de l'adoration collective. Versets 46 à 47. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église celles et ceux qui étaient sauvés. C'est Dieu qui agit. Le culte du dimanche, la célébration du dimanche, l'adoration du dimanche, c'est pour Dieu et c'est par Dieu. C'est lui qui nous rassemble. C'est lui qui nous réunit. C'est lui qui nous appelle à être ensemble. Et une fois de plus, je suis sûr qu'il y a des semaines où vous n'avez pas envie de venir à l'église et que vous aimeriez être ailleurs. Parce que les chrétiens, les chrétiennes, sont la première menace de l'Église. On a tous été blessés par l'Église, par les gens, à cause de certaines actions, certaines rumeurs, par manque de grâce, par absence de compréhension. On s'est tous déjà posé la question de la pertinence de l'Église, avec ses défaillances, ses défauts, ses manquements. Mais si l'Église ne dépendait que de nous, elle n'existerait pas. L'Église n'existerait pas. Alors pourquoi s'embêter à se réunir? Pourquoi s'efforcer à être ensemble? Pourquoi essayer la communion fraternelle? Si c'était pour nous-mêmes, pour notre propre cause, à quoi bon faire l'Église? Mais en tant que chrétien, on a une bonne raison de persévérer, même si parfois ça crée des tensions, même si parfois ça crée des conflits, même si parfois ça crée des douleurs. Mais surtout, ça révèle notre nature en tant qu'être humain. Mais j'aimerais vous dire une chose. Au verset 46, lorsque Luc écrit qui louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Le Dieu qui ajoutait chaque jour celles et ceux qui étaient sauvés dans l'Église est le même Dieu qui a envoyé son Fils sur terre. Et lorsque Jésus a quitté le ciel pour venir sur terre, il a quitté une communion qui était parfaite et totale, qu'il vivait avec le Père et l'Esprit. Il est parti exprès pour des gens comme nous, comme vous, comme moi, nous qui sommes tellement imparfaits, tellement inconsistants, tellement indésirables parfois, nous qui sommes parfois la raison pour laquelle certaines personnes ne veulent pas venir à l'Église. Il est venu exprès pour que nous, nous puissions entrer en communion avec Dieu. Il est venu exprès sur terre que nous puissions expérimenter une communion fraternelle entre nous. Il a quitté les cieux pour nous. Et lorsque Jésus est venu sur terre, il fait l'affirmation suivante. Il déclare que la seule manière de pouvoir aller au-delà des différences de chacun et de chacune et d'atteindre l'unité au milieu du péché, des fautes, du chaos. La seule manière, c'est par sa personne. Et ça lui en a coûté sa vie. Et c'est pour vous dire à quel point on était éloigné de Dieu et à quel point on était éloigné des uns et des autres. Mais Jésus l'a fait pour nous. Et si Jésus est venu sur terre pour donner sa vie pour nous, c'est qu'il pensait que ça en valait la peine. Jésus a cru en nous. C'est Dieu qui a pensé que l'Église est une bonne idée. C'est pas nous, hein. L'Église, c'est une vision de Dieu. C'est le Seigneur qui a ajouté chaque jour à l'Église celles et ceux qui étaient sauvés. C'est le Seigneur. Ça dépend que de lui. Et c'est ce qui est réconfortant dans tout ça. Ça doit être la source des choses que l'on fait. Et peu importe combien on vit imparfaitement notre vie d'église, peu importe, on a une raison de vivre ce projet de Dieu, c'est Christ. Vous savez, j'ai été pasteur dans une église, j'ai travaillé à temps plein dans une église, c'est plus le cas. Et vous savez pourquoi j'ai arrêté de travailler pour une église? Pourquoi j'ai arrêté d'être à temps plein? C'est très simple. C'est à cause des gens. C'est à cause des chrétiens et des chrétiennes que j'ai arrêté. Vivre la vie ensemble, c'est pas simple. Fonder une église, c'est très compliqué. Se supporter les uns et les autres, c'est difficile. Mais au-delà du fait qu'il s'agit d'une vision de Dieu, c'est aussi un appel pour nous à vivre ensemble pleinement le message de l'Évangile. Un appel où on peut confesser mutuellement ses fautes en se pardonnant, en demandant pardon, en appliquant la grâce et en appliquant la rédemption. Et c'est pour ça que je continue à prêcher l'Évangile, même si je suis plus à temps plein. Je continue à prêcher l'Évangile parce que je suis fermement convaincu de ce message. Je suis fermement convaincu de Acte 2, de son impact éternel, non seulement sur nous, mais aussi l'impact que peut avoir l'Église aux yeux de la société. C'est Jésus qui est à la tête de l'Église. Et avec ça, on a notre espérance. C'est notre source. On a besoin des uns et des autres. J'ai besoin de mes frères et sœurs, vous avez besoin de vos frères et sœurs. Il y a un dicton, je ne sais pas d'où ce qui vient, vous avez peut-être entendu, mais il y a un dicton qui dit « Si tu veux aller vite, vas-y seul. Si tu veux aller loin, allez ensemble. » Je sais que le dimanche, c'est compliqué. On est fatigué, on a envie de se reposer, on a envie de passer du temps avec sa famille, ses amis. On a envie de faire autre chose. On a envie de partir en week-end. Mais j'aimerais vraiment que vous compreniez que l'Église doit être une priorité dans la vie. Se réunir dimanche après dimanche, c'est pas mon idée, c'est l'idée de Dieu. C'est lui qui a créé l'Église. Et on le voit pas forcément, mais lorsque l'on vient chaque dimanche, on est constamment renouvelé, transformé, changé, parce que c'est une habitude qui a une empreinte sur notre vie. Et j'aimerais vraiment que vous méditiez là-dessus aujourd'hui, que l'Église, c'est une chose essentielle. L'adoration collective, le culte du dimanche, c'est une chose qui est vitale. C'est pas écrit dans les commandements, c'est pas obligatoire, mais je vous laisse méditer dessus. Il y a une formation qui se produit dans chaque habitude. Il y a une puissance de la routine, de la grâce. Et j'espère que vous comprendrez cela. Priez avec moi. Seigneur, merci pour tes disciples. Merci parce que ils ont eu le réflexe de se réunir lorsque tu es remonté au ciel. Ils ont compris que c'est important, c'est crucial de se réunir ensemble, même si c'est compliqué, Seigneur. Et c'est pour ça que je te prie pour toutes les personnes présentes dans cette salle, que parfois ils ont expérimenté des douleurs, des blessures liées à l'Église, liées aux chrétiens et chrétiennes, liées à des frères et sœurs. Et je te demande que tu puisses aider ces gens à comprendre l'importance de venir le dimanche à l'Église. Et je te prie pour cette assemblée de Saint-Maur, pour cette congrégation, que tu puisses l'aider à être ferme, à tenir par la foi, Seigneur, à vraiment être avoir cette passion, avoir ce feu pour toi, Seigneur. Que tu puisses encourager les personnes qui sont fatiguées, qui sont lassées parfois, que tu puisses vraiment les aider, Seigneur, que tu puisses insuffler ton esprit et que ta grâce soit déversée dans leur vie, Seigneur. Et pour tous les leaders de cette Église, je te demande que tu puisses vraiment renouveler leur force dans leurs responsabilités, dans leur vision qu'ils ont pour cette Église, Seigneur. Et que tu puisses vraiment fortifier cette Église, Seigneur. Et je suis reconnaissant pour ce qu'elle fait ici dans cette ville, dans ce département, Seigneur, et que tu puisses vraiment l'utiliser pour la gloire de ton nom, Seigneur. Je te prie toutes ces choses au nom de Christ. Amen.